masque tombe sur RCN.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Maxime Santiago qui fait des simulations 3D dans le domaine du patrimoine et de l'architecture.
RCN, Les Masques tombent, Elisa Gautron.
Bonjour Maxime.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Eh bien, écoute, impeccable. Impeccable, la semaine commence sur les chapeaux de roue, beaucoup de projets, beaucoup de simulations 3D en perspective, donc c'est très bien.
Super, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais, te présenter ?
Alors, dans les grandes lignes, j'ai reçu une formation d'architecte à l'école d'architecture de Nancy pour me développer dans ce domaine très très vaste qu'est l'architecture et le patrimoine, comme tu l'introduisais à l'instant. C'est-à-dire que je suis spécialisé dans tout ce qui concerne la simulation 3D, la modélisation de l'architecture qui a disparu ou qui a évolué au cours du temps, donc reconstituer le passé, le passé de nos villes, de nos monuments, de nos territoires, sans limite de frontières, puisque finalement, depuis quelques années, je travaille sur des sujets nancéiens, dans les environs de Nancy, en France, au Luxembourg, et aussi à l'étranger, un petit peu plus loin, qui est le Moyen-Orient, pour des archéologues notamment. Et je travaille également avec des architectes. Alors ça, c'est un autre domaine. Ce n'est plus pour reconstituer le passé, mais c'est pour simuler des projets futurs. Et je travaille avec des architectes, des constructeurs et des promoteurs immobiliers pour simuler en 3D les projets qui sortiront de terre dans un futur proche ou lointain.
D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé jusque-là ? Quel est ton parcours ?
Alors, je me suis intéressé assez tôt, en fait, à la représentation et à ce domaine de l'architecture, puisque j'avais commencé, on va dire, à étudier ce domaine uniquement à titre de passion au moment du collège, et puis j'ai progressivement développé, on va dire, ce domaine. J'ai procédé à quelques recherches, et comme je suis originaire de Dijon, j'avais étudié la ville historique avec des études, je vais dire, en archives, vraiment avec une tonalité patrimoniale. Et progressivement, en approchant du baccalauréat, je savais déjà que je voulais être dans ce domaine de l'architecture. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à postuler auprès des écoles d'architecture. Et comme il n'y a pas d'école d'architecture encore en Bourgogne-Franche-Comté, eh bien je me suis expatrié en Lorraine. Parce que l'école offrait un parcours qui m'intéressait beaucoup. Et depuis 2014, au moment de l'obtention de mon diplôme, eh bien j'ai commencé à travailler en tant qu'indépendant et à répondre à des commandes. Et je vais juste apporter une petite précision sur ce parcours avec un projet qui a été assez marquant pour moi. C'était en 2012, j'avais effectué un stage au sein du laboratoire du CRE, du MAPCRE à l'école d'architecture. Mmh. Et à ce moment-là, on travaillait sur la reconstitution de la ville Renaissance de Nancy pour l'exposition Nancy Renaissance, la ville révélée. Donc ça a été une première expérience dans le milieu de la reconstitution et de l'étude scientifique du patrimoine et qui m'a été très très bénéfique. J'ai rencontré des équipes de chercheurs, d'archéologues, des politiques, enfin tout un ensemble d'acteurs qui construisent un projet et qui le développent. Et ça a été fascinant et ça m'a confirmé tout simplement mon cœur de métier que j'ai développé progressivement.
D'accord. Et comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'architecture ? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce domaine ?
Ce qui me plaît, c'est l'identité que l'architecture apporte à des lieux, que ce soit des lieux à l'échelle d'un monument, d'une rue ou d'une ville entière. Et par toute la variété des sculptures, des formes, des matériaux, en fait, on a des ambiances et des ressentis qui sont totalement différents. Mmh. Et ce qui est fascinant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est à l'aise, par exemple, dans un lieu ou pourquoi on ne l'est pas. Et c'est très important d'avoir ces deux aspects, du positif et du négatif, parce que du négatif, en fait, on se pose aussi d'autres questions qu'on ne se poserait pas si un lieu était parfaitement équilibré et agréable. Et ça nous aide à essayer de comprendre d'où viennent les ressentis, on va dire, un petit peu négatifs, pour essayer de les résoudre, pour essayer de les améliorer. Et c'est justement le but, ça c'est aussi le côté fascinant des projets, c'est d'apporter une amélioration ou d'enrichir nos villes. Et donc ça c'est, vous voyez, une dimension qui me plaît. C'est d'étudier vraiment toute la variété et de l'architecture et ce que ça raconte sur le plan historique aussi. Parce que des projets sortent de terre pour différentes raisons. Et ce qui est très intéressant, c'est de lire une ville comme une bande dessinée, en fait. On est vraiment au cœur d'une bibliothèque à ciel ouvert, mais gigantesque. Et en fait, tout le monde peut y trouver un intérêt. Certains vont s'arrêter sur l'aspect purement esthétique, d'autres sur l'aspect intellectuel, d'autres sur des aspects fonciers, économiques, par exemple. En fait, c'est très varié. Et finalement, c'est ça qui est très stimulant. C'est d'étudier ce qui est, je vais dire, aussi l'aspect invisible des choses.
Donc tu t'es intéressé très tôt à l'architecture, tu m'as dit que tu t'étais intéressé à partir du collège. Qu'est-ce qui t'a plu en premier dans l'architecture ?
L'architecture, ce qui m'a plu en premier, c'est toute la diversité et la richesse, hein, des sculptures, des formes, des... comment dire, on a la chance d'être dans un pays et un continent qui a une histoire tellement riche, dense, avec des croisements culturels, avec des interactions ici et là, qu'en fait on s'ennuie jamais. On marche dans nos villes, on lève les yeux et on regarde, et en fait on se rend compte que ce sont des merveilles à droite et à gauche. Bon, évidemment, je vais parler de l'aspect plus positif que négatif, hein, bien sûr, puisque après, ça fait partie de ma sensibilité et de mon parcours. Certains vont être absolument sans sensibilité par rapport à l'esthétique des bâtiments. Ils vont plutôt préférer, on va dire, voir le côté, on va dire, économique des choses, ou voir aucun côté d'ailleurs, tout court. Mais en tout cas, ça fait partie des domaines de création, de créativité et de développement à la fois esthétique et intellectuel, moi, qui me plaît, qui m'a toujours fasciné. Et en fait, au collège, je me suis imprégné de ça sans me poser forcément les questions, mais rien qu'en me promenant dans Dijon et en découvrant un petit peu les monuments, en voyant qu'ici et là, il y avait des morceaux, par exemple, d'édifices qui étaient préservés, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on préserve ce petit morceau de bâtiment, ou pourquoi celui-ci a plus d'intérêt qu'un autre, par exemple. Et à force de se poser des questions et de chercher des réponses, eh bien, comme dans des domaines très riches de la recherche, en fait, on se pose une question et il y en a 10 qui arrivent. Et finalement, c'est interminable. C'est un vrai jeu d'enquête et d'études, et ça c'est fascinant.
Et c'est ça qui t'a amené à faire donc de la reconstitution patrimoniale ?
Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, l'image 3D comme l'image, le dessin à la main, en fait, sont un mode de communication qui est universel. C'est-à-dire que si je dois, par exemple, expliquer un édifice ou l'évolution d'un lieu, si je l'explique avec mes mots, je vais décrire les choses et essayer de transmettre un savoir qui ne sera peut-être pas forcément compris par mon public, parce que je vais utiliser des termes et je vais utiliser une expérience de pensée qui m'appartient. Et forcément, en face de moi, je vais avoir des gens qui maîtrisent plus ou moins le même vocabulaire et qui vont pas forcément avoir les mêmes sensibilités que moi. Alors que si je traduis une pensée par une image, eh bien l'image, elle est universelle. C'est-à-dire que tout le monde va avoir le même objet, tout le monde va avoir la même chose, va peut-être comprendre et le sujet différemment, mais en tout cas, il n'y aura pas la barrière de la langue, pas la barrière du vocabulaire et de la culture aussi. Et certains éléments ne peuvent être compris aussi que si on a un minimum d'informations, que ce soit des noms, des dates. Eh bien, l'image, elle synthétise toutes ces connaissances et elle rend vraiment accessible la connaissance à tous.
D'accord. On va faire une petite pause, on va écouter Sunshine de One Republic et puis on reviendra pour parler plus en détail de ce que tu fais. Running through the strange light, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone, lights, everything is so fine, little bit of sunshine.
Yeah. Crazy lately, I'm confirming. Trying to rob myself of something. You just trying to get a word, and life is not fair. I've been working on my tunnel vision. Trying to get a new prescription. Taking swings and even missing, but I don't care. I'm dancing more, just a little bit. Breathing more, just a little bit. Care a little less, just a little bit. Like life is woo. I'm making more, just a little bit. Spin a little more, dig a bit of it. Smile a little more, and I'm into it. I've been running. Moment I've been feeling helpless. Sick of seeing all the selfies. Now I don't care. Found myself a new vocation. Calibrated motivation. No more static, change the station. Headed somewhere. I'm dancing more, just a little bit. Breathing more, just a little bit. Care a little less, just a little bit. Like life is woo. I'm making more, just a little bit. Spin a little more to get rid of it. Smile a little more and I'm into it. Honestly, man, lately I've been
running through this strange life. Chasing all them green lights. Growing up the street. Slow down, trying to keep up with the changes. Punch that number and the name when it clock in. Now I feel like Michael with the cane when I walk in. Basically, life is the same thing. Unless you don't want the same thing. Probably should've went and got a feature, but I didn't. I've been saving up the money, cause it's better for the business.
I've been running through the strange life. Chasing all them green lights. Throwing up the shade for a little bit of sunshine.
Les masques tombent sur RCN.
On est toujours en compagnie de Maxime Santiago. Alors Maxime, est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail en quoi consiste ton travail ?
Alors mon travail consiste à modéliser et représenter par l'image un projet ou un patrimoine qui a évolué ou disparu. C'est-à-dire que je vais avoir un commanditaire, un client qui va me dire, voilà, je souhaiterais dans un cadre précis, il peut s'agir d'un anniversaire, de commémoration ou d'inauguration, je vais avoir un besoin, c'est de montrer un édifice qui n'existe plus ou alors de montrer un édifice qui existera dans le futur. Donc, la volonté, elle est simple, elle est de transmettre, de communiquer des visuels pour faire comprendre à tout le monde l'intérêt d'un sujet. Et moi, mon travail, ça va être de mener des recherches, d'étudier des documents et ensuite de tout redessiner à l'ordinateur dans une modélisation 3D de laquelle je vais ensuite extraire un ensemble d'images fixes, de vidéos pour pouvoir offrir des visites virtuelles ou réaliser un documentaire, s'il peut s'agir d'un petit, moyen ou long métrage. Et je vais également pouvoir créer des immersions 360 pour offrir des visites immersives dans lesquelles les utilisateurs peuvent se déplacer à la manière de Street View, par exemple, en se déplaçant de spot en spot. Et ça permet de mieux comprendre un sujet d'étude parce qu'on est plongé vraiment visuellement dans dans une sorte de réalité qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut plus voir ou qu'on ne peut pas encore découvrir, en fait. Voilà.
D'accord. Et quel type de clients, du coup, te passent des commandes pour ce genre de reconstitution ?
Alors, j'ai toutes les catégories, je vais dire, de clients, c'est-à-dire que dans le domaine, premièrement, de la reconstitution du patrimoine, je vais avoir essentiellement les domaines publics. Alors, il s'agit des collectivités locales. Il peut s'agir de mairies, de communautés de communes, de métropoles, départements, etc. Et jusqu'à présent, par exemple, j'avais travaillé sur des sujets comme la cathédrale de Toul, où le maire de Toul avait souhaité en 2021 offrir au public une représentation de l'histoire de la construction de la cathédrale, puisqu'on célébrait à cette époque les 800 ans de sa construction. Donc il s'agissait pour lui de... Il m'avait confié la tâche de représenter les phases de construction de ses origines à nos jours. Donc c'était un long travail d'études et de recherche dans les archives et ensuite de représentation. Mmh. Ensuite, il y avait eu la ville de Nancy, la métropole et le musée Lorrain pour reconstituer l'exposition internationale qui avait eu lieu en 1909 dans tout le quartier du parc Sainte-Marie et du terrain Blandan où se situe actuellement Nancy Thermale. Alors l'objectif de la commande, elle était simple. En 2022, on sortait du confinement, c'était la reprise des activités culturelles et Destination Nancy, Office de Tourisme, avait souhaité pour la reprise des activités culturelles et surtout avec la Foire Expo qui s'est tenue cette année-là, eh bien, il voulait offrir une vision en 3D, une immersion totale au cœur de cette exposition internationale, puisqu'on avait découvert à ce moment-là la source thermale de Lanternier et qui correspondait à l'inauguration du parc thermal qui avait lieu l'année suivante, c'est-à-dire l'année 2023. Et dernièrement, j'avais travaillé aussi avec le musée Lorrain qui avait souhaité, dans le cadre des 40 ans de l'inscription UNESCO des trois places de Stanislas, le musée Lorrain souhaitait que je présente la construction de ces trois places pour qu'on comprenne ce qu'il y avait avant leur édification et qu'on comprenne l'intérêt ou l'importance qu'elles ont apporté à la ville, tant sur l'aspect architectural, urbain et évidemment politique de l'époque, pour comprendre finalement pourquoi est-ce qu'elles ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ensuite, dans l'autre domaine qui est celui du prospectif, c'est-à-dire la simulation 3D de projets d'architecture, j'ai essentiellement des commanditaires privés, des sociétés, qu'il s'agisse d'architectes, de constructeurs, de promoteurs immobiliers, de commercialisateurs aussi, puisque eux, leur besoin, il est de montrer une réalité future pour intéresser les investisseurs, pour alimenter aussi leur dossier. C'est-à-dire que lorsqu'on construit un projet d'architecture, il faut avoir des autorisations par la DRAC, par exemple, suivant les secteurs où évidemment on construit. Il faut constituer des dossiers de demande d'autorisation et tout ça, tout le travail d'image va permettre de faire comprendre le projet beaucoup plus rapidement, ce qui va accélérer évidemment la compréhension et la validation de certains projets, de leur amélioration, de leur correction, et ça permet à tous les corps de métier qui sont acteurs du projet d'avoir le même discours sous les yeux. Et ça permet donc, comme je le disais, d'accélérer les choses. Tout le monde comprend la même chose et donc on peut avancer beaucoup plus rapidement.
Et quand tu travailles sur des projets comme celui de l'exposition universelle, combien de temps est-ce que ça te prend entre les recherches, la modélisation, le rendu ?
Alors, pour l'exposition internationale de 1909, j'avais eu un délai de 5 mois qui avait été accordé. Donc, autant dire que c'est un challenge parce que 5 mois passent très très vite. Mmh. Il a fallu que je mène les recherches dans les archives, qu'elles soient numérisées ou qu'elles soient physiques, donc les archives municipales, départementales, les musées, les bibliothèques, que je me nourrisse d'un maximum de documentation. Tout ce travail-là a duré 4 semaines, alors donc un mois. Ensuite, il a fallu faire les modélisations, c'est-à-dire dessiner dans l'espace tous les pavillons, tous les palais, le mobilier urbain, les parterres engazonnés et fleuris, le complexe architectural de l'époque. Et autant dire que c'était considérable parce qu'on avait plus d'une quarantaine d'édifices, j'avais plus d'une quarantaine d'édifices à modéliser. Mmh. Et pour donner quelques chiffres, l'exposition occupait un terrain de 180 000 mètres carrés, ce qui est énorme. Et donc là, je m'y suis consacré 3 mois. Et ensuite, il a fallu un mois supplémentaire pour travailler tout ce qui concerne les rendus d'images et les vidéos, enfin, c'est-à-dire les exports, les corriger, les améliorer et ensuite travailler tout le montage vidéo, puisque la réalisation finale consistait à produire un ensemble d'images pour les diffuser sur les réseaux sociaux, pour les imprimer dans des publications, sur le stand, etc. Mais également pour réaliser une vidéo documentaire qui durait un quart d'heure, Donc il a fallu écrire, rédiger toute une narration, tout un scénario, faire des allers-retours avec mon commanditaire pour faire mûrir le scénario, le storytelling, le storyboard, montrer si le parcours correspond aux attentes. Enfin bref, c'est un travail, on va dire, qui a demandé à moi, mais en tout et pour tout, je dis que la période a duré cinq mois, mais il faut bien imaginer qu'il n'y avait pas 35 heures par semaine, mais facilement au double. Donc ça a été un long travail de recherche et de créativité, de création, je vais dire. Et sur le plan autant professionnel que personnel, c'est fascinant parce qu'on redécouvre une réalité d'une autre façon et ça apporte un complément énorme par rapport à la donnée historique. Parce que dans ces périodes-là, on a beaucoup de documents graphiques comme des photographies, comme des gravures. On a beaucoup de sources imagées. Mais par contre, évidemment, on est bloqué. C'est-à-dire qu'on a toujours un point de vue qui est le cadrage de la photographie et on ne peut pas tourner autour. Et c'est ça qu'apporte en complément la création 3D, c'est qu'on a la possibilité de déambuler. On a les matériaux, on a les ambiances, donc les couleurs, les ressentis sont différents et ça permet de matérialiser la connaissance. Et ça, c'est un travail très, très important parce qu'en plus d'être un outil de vulgarisation de la connaissance, de la donnée historique, ça permet aussi aux historiens et aux spécialistes de confirmer ou d'infirmer certaines hypothèses. C'est-à-dire que si on représente un élément architectural ou archéologique que l'on supposait être de telle ou telle forme, et qu'une fois qu'il est représenté, on se dit oui, c'était bien ça ou non, ce n'était pas ça, eh bien, ça permet de faire avancer la compréhension de notre histoire, en fait.
D'accord.
Voilà.
On va faire une petite pause musicale, on va écouter Clocks de Coldplay, et puis on revient juste après.
Oh,
Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN.
On est toujours en compagnie de Maxime Santiago. Alors Maxime, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles en ce moment ?
Alors en ce moment, je travaille sur deux projets, on va dire, d'importance. Le premier est à visée, je vais dire artistique et de reconstitution patrimoniale. Et le suivant, il est dans la dimension, on va dire, architecturale. C'est-à-dire que ce deuxième projet est une commande d'une agence située à Lyon et qui participe à un concours d'architecture. Donc là, je dois représenter par l'image le projet de cette agence avec des vues extérieures, des vues intérieures et qui sont destinées à montrer tout l'intérêt, toute la puissance, toute la force de ce projet avec des ambiances et des matérialités que l'agence doit définir. Et ces images-là vont permettre justement, sont en train de permettre de confirmer certaines idées, certaines hypothèses. Donc c'est un travail qui se construit avec les équipes et puis évidemment mon travail et qui devrait être livré dans peu de temps. Ensuite j'ai dans le premier projet, le domaine artistique et patrimonial, je suis en train de reconstituer le Paris de la Belle Époque, au temps des expositions universelles et donc de toute cette période des grands artistes de Montmartre avec les cabarets et les music-halls qui n'existent plus à l'heure actuelle. Donc il y a un travail de recherche sur tous les cabarets, sur tous les palais, sur tous les pavillons de cette époque-là. Et il faut vraiment comprendre qu'il y avait une opulence et une richesse de sculpture et d'ornementation à l'époque qui fait que on a beaucoup de documents à rechercher et ensuite à redessiner. Donc ça, c'est dans le domaine, c'est le Paris de la Belle Époque, mais je suis aussi en train de réaliser une exposition qui aura lieu en juin prochain à l'Office de tourisme de Nancy.
D'accord.
Avec la création d'affiches qui représentent le Nancy également de la Belle Époque et aussi une partie du XVIIIe siècle.
La Belle Époque, c'est une période qui te fascine plus que les autres, qui t'attire plus particulièrement ?
Et j'avoue qu'elle me plaît beaucoup. J'ai plusieurs autres époques qui m'intéressent parce que toutes les époques en fait apportent leur lot de particularités et d'intérêts qui sont totalement différents. Pour plusieurs raisons, mais c'est vrai que celui de la Belle Époque est tellement riche et a tellement vu un développement dans tous les domaines, hein, qu'il s'agisse du domaine architectural, artistique, culturel, mais surtout et aussi industriel et scientifique, qu'on a vraiment une transformation, un bouleversement mais énorme dans notre société, ce qui fait qu'on a eu je dirais une sorte d'apogée de production et d'enrichissement dans les villes qu'aujourd'hui on ne peut plus percevoir à sa juste valeur parce que on a eu les deux guerres mondiales qui sont passées par là, on a eu la période de mai 68 et des grands projets des années 70 aussi qui ont fait que progressivement il y a eu une sorte de patrimoine, je vais dire ordinaire et remarquable, qui a progressivement été détruit. Parce que les goûts évoluent, parce que les crises économiques viennent, partent et reviennent, etc. Enfin, voilà, donc on a vraiment, je dirais, de cette période de la Belle Époque, beaucoup de documents, mais une représentation aujourd'hui qui est vraiment très très loin de ce qu'elle était réellement dans nos villes. Et pour le dire, Nancy a rayonné mondialement dans le domaine notamment de l'art nouveau. L'art nouveau nancéien est reconnu mondialement, mais aujourd'hui, il nous reste, on va dire, une sorte d'héritage qui est incomplet par rapport à ce qu'il y avait à cette époque-là, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Et moi, c'est cet aspect-là qui me plaît, c'est d'essayer de redécouvrir et de faire redécouvrir avec ma vision des choses, c'est-à-dire avec ma touche artistique, eh bien, toute cette richesse que l'on avait à une époque et qu'aujourd'hui, on ne peut plus voir, en fait.
D'accord. Merci beaucoup, Maxime, de nous avoir parlé de ce que tu fais. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour terminer ?
Eh bien, déjà, je vous remercie de votre accueil et je vais vous souhaiter aussi à tous une très bonne année 2024.
Merci. Voilà. Donc, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur un site web?
Voilà, tout à fait. En fait, vous avez juste à taper soit mon prénom, donc Maxime Santiago, soit le nom de ma société MGS 3D. N correspondant à Maxime, G correspondant à Germain. Germain, c'est mon deuxième prénom, en fait. Et le S, c'est mon nom de famille, comme vous l'auriez deviné, Santiago. J'ai un site internet mgs3d.fr et une chaîne YouTube également sous ces deux noms.
Où on peut retrouver, du coup, tes vidéos de reconstitution?
Tout à fait.
Super. Ben, merci beaucoup, Maxime.
Merci à vous.
Et puis, on va se quitter en écoutant Plus fort de Julien Granel. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission des Masques tombent.
Gagner la vie, c'est à sillonner les années. Et tant pis, il y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra. L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça. L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Plus fort. Les avis, j'encaisse. J'ai à sillonner les échecs. Et tant pis si je perds sur la route de mes rêves, des amis qui durent. Et je croyais pour la vie. Si tu l'aimes, autant lui dire et le reste attendra. Je croyais que l'avenir ne se finissait pas. Je vais courir.